Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni. La coordination urbaine de la société civile de la ville appelle la population au respect des mesures barrières. C'est notamment le lavage des mains et la distanciation sociale. Plus de 600 véhicules avec des marchandises et des milliers de passagers sont bloqués à Komanda Centre d'un côté et à Mambasa Centre de l'autre. Conséquence de la suspension du trafic pour cause d'insécurité causée par les ADF. Sur place, la FEC déplore rareté et la hausse des prix de certains produits. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est le docteur Michel Tolsalisana, médecin-chef de la zone de santé de Beni. Il appelle à un engagement communautaire pour limiter cette 15e épidémie d'Ebola à l'unique cas découvert à Beni. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, face à la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni, la coordination urbaine de la société civile de la ville appelle la population au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, notamment le lavage des mains et la distanciation sociale. Son président invite par cette même occasion les habitants à s'approprier la riposte contre cette maladie et de ne pas résister aux équipes de cette riposte dans leur ménage. C'est de cette façon, pense-t-il, que cette maladie à virus Ebola sera vaincue. Maître Pépin Kavota est au micro d'André Kitenge.
Nous avons été beaucoup surpris que Ebola refait surface à ville de Beni. Entre-temps, on était aussi épais contents parce que nous savons le niveau de la riposte de notre communauté. C'est autant que nous sommes en train d'appeler la population de respecter toutes les normes déjà acquises il y a peu. Ebola, nous l'avons gagné il y a quelques mois, même si avant celle qu'on avait gagnée a eu des dégâts à ville de Beni, sur notre population. Mais nous appelons encore une fois à la population à s'approprier la riposte. Parce qu'à s'approprier la riposte, Ebola va fuir de la ville de Beni. Donc, nous demandons à toutes les mamans, les papas, les enfants, tous ensemble, de respecter les normes barrières, les normes sanitaires déjà connues d'avance. Et d'éviter d'être résistants aux équipes qui seront chez nous pour, n'est-ce pas, détecter d'autres cas suspects dans nos ménages. Donc, approprions-nous la riposte contre Ebola. Et nous vaincrons Ebola comme nous l'avons vaincu la fois dernière.
En effet, toutes les mesures nécessaires sont déjà prises par les autorités sanitaires pour combattre dans le plus bref délai la résurgence de la maladie à virus Ebola qui a été déclarée par le ministère de la Santé le dimanche 21 août dernier dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. Déclaration du directeur général de la direction de la lutte contre la maladie au sein du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, c'est confiance, c'est mercredi à Radio Okapi. Le docteur Dieudonné Mwamba appelle à l'implication de tous pour vaincre cette maladie. Grâce à Mzati.
Le ministère de la Santé précise que depuis la déclaration de cette 15e épidémie d'Ebola, les équipes cadres de la santé ainsi que les équipes provinciales sont à pied d'œuvre pour mener les actions de santé publique autour du cas confirmé. C'est notamment la désinfection de l'hôpital général de référence de Beni, le listage des contacts ainsi que la planification pour la vaccination. Docteur Dieudonné Mwamba.
Je peux vous confirmer qu'un lot de vaccins a été envoyé et qui est déjà arrivé au niveau de la province et qui sera déployé pour organiser dans les meilleurs délais la vaccination. Le travail est en cours par les équipes qui sont sur le terrain. C'est justement, on va commencer cette vaccination prioritairement avec les personnels de santé, qu'on appelle les personnels de première ligne, qui sont vraiment en contact avec le cas. Mais on va élargir aussi à contact et au contact des contacts.
Il appelle cependant la communauté à prendre cette menace sanitaire très au sérieux et à capitaliser l'expérience du passé afin d'éradiquer cette épidémie dans un bref délai.
On ne peut pas exposer les populations à un virus aussi dangereux, donc c'est loin d'être un montage. Nous communiquons sur ce qui est vraiment une réalité. C'est un virus qui a été détecté confirmé au niveau de laboratoire, donc nous invitons encore ceux qui résistent ou qui ne croient pas à vraiment faire confiance au système de santé, aux autorités sanitaires et politico-administratives.
Notons que le cas confirmé est une femme de 46 ans décédée le 15 du mois en cours à l'hôpital général des références de Beni. À ce jour, plus de 150 cas contacts sont déjà enregistrés.
Avant de refermer cette page santé, sachez que deux médecins se sont battus mardi dernier dans une salle d'opération dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. L'un d'eux, médecin anesthésiste, a été grièvement blessé par son collègue à l'aide d'un bistouri chirurgical. D'après le président provincial du Conseil national des techniciens anesthésistes réanimateurs du Nord Kivu, l'incident a eu lieu dans le bloc opératoire de l'hôpital de Rutshuru. Poto Kambale Kachuva condamne cet incident qui, selon lui, viole le code d'éthique et de déontologie médicale. Il exige l'ouverture d'une enquête et que des sanctions soient prises à l'encontre des deux protagonistes. Dans la province du Tanganyika, la lèpre refait surface dans les territoires des Moba. Depuis le mois de janvier de cette année, plus de 100 cas ont été recensés. D'après les superviseurs de la lèpre et tuberculose dans la zone de santé des Moba, la prise en charge des malades est assurée par le gouvernement. Cependant, il dit constater que certains malades se présentent avec des infirmités et la prise en charge s'avère hypothétique. Philippe Ndaïlé sollicite l'aide du gouvernement. Il a été joint par Paulin Mounanga.
Jusqu'à ce jour, nous avons déjà enregistré 112 cas de lèpre. En 2021, pour toute l'année, nous avions enregistré 177 nouveaux cas. Tandis qu'en 2020, nous avions terminé avec 258 nouveaux cas. Le problème des médicaments ne se pose pas. Le problème qui peut se poser, c'est pour juguler un peu les infirmités. Il y a parmi ces cas que nous sommes en train d'enregistrer, il y en a qui viennent avec un retard puisqu'ils se présentent déjà au diagnostic avec des infirmités visibles. Il y a des médicaments qui peuvent intervenir, tels que la prednisolone, la dexaméthasone. Lorsque le malade se présente déjà avec un problème lié à la maladie, on peut intervenir avec ces médicaments-là. Mais il se fait que pour le moment, les médicaments-là, on ne les trouve pas. Nous demandons au gouvernement de nous approvisionner les médicaments capables de prévenir les infirmités liées à la lèpre.
En Ituri, l'hôpital général de référence de Loloa dans le territoire de Mambasa vient de suspendre ses activités suite à l'activisme récurrent des rebelles des ADEF. C'est le médecin chef des zones de santé de cette entité sanitaire qui l'annonce. De nombreux habitants, y compris le personnel soignant de cet hôpital et des malades, se sont enfuis. La société civile locale lance un cri d'alarme aux autorités militaires pour rétablir la sécurité dans cette zone. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Cela fait maintenant plus de deux semaines que les rebelles des ADEF ont investi plusieurs localités des environs du centre commercial de Loloa dans la chefferie de Babilaba Kwanza. C'est par exemple les villages Tolitoli, Bahaha, Bandikilo, Babumbel, Lomalisa, Balibwami qui se sont vidés de leurs habitants. Selon plusieurs sources locales, au moins six attaques de ces rebelles ont déjà été repoussées par l'armée autour de l'hôpital de Loloa dont les rebelles cherchent à tout prix à prendre le contrôle et pouvoir ainsi le piller pour se ravitailler en médicaments. Des sources médicales dans la zone rapporté que tous les malades ainsi que les corps soignants ont fui pour leur sécurité, ce qui a poussé les autorités sanitaires à instaurer un service minimum. La société civile locale invite l'armée à renforcer ses opérations contre ces terroristes afin de permettre le retour de la paix dans cette zone. Son coordonnateur, Alaya Yuma Constant.
Nous avons besoin de la paix parce qu'on ne peut pas demander une autre chose quand il n'y a pas la paix. Même si on dit qu'on peut ouvrir l'hôpital, on va ouvrir comment quand il n'y a pas la paix. C'est pour cela que nous demandons à nos autorités de nous venir en aide pour voir comment chercher que la paix puisse revenir dans notre activité.
Signalons que la zone de santé de Loloa compte plus de 118 000 habitants, dont la majorité bénéficie des soins de cet hôpital. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Comme dit dans le reportage que vous venez de suivre, l'hôpital de Loloa n'est pas fermé. Notre reportage citant des sources sanitaires dit plutôt qu'un service minimum a été instauré dans cet établissement hospitalier. De son côté, le lieutenant Jules Ngong, porte-parole de l'armée en Ituri, intervenant hier soir sur les antennes de la RTNC, a indiqué que l'hôpital Loloa fonctionne normalement. On l'écoute dans cet extrait proposé par Pélé Kipelamondo.
De la République démocratique du Congo maîtrise la situation dans les territoires de Mambasa. Hormis les agitations ou le rumeur qui fait état de la fermeture de l'hôpital de Loloa, nous vous assurons que cet hôpital fonctionne normalement. D'ailleurs, pour sécuriser de plus en plus la population de Loloa et ses environs, sur ordre du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, il a ordonné de mettre en place les PC, donc le poste de commandement avancé à Lolo. Actuellement, où nous vous parlons, il y a un poste de commandement avancé placé sur place à Lolo, dans l'objectif de répondre à toute éventualité.
Sachez par ailleurs que les combats ont repris hier mercredi après-midi entre les FARDC et les rebelles du M23 autour du village de Rangira. C'est dans le groupement de Djomba, en territoire de Rutshuru. Selon des sources civiles et administratives locales, des tirs à l'arme lourde et légère étaient entendus depuis la mi-journée dans la zone. Nous l'avons dit au sommaire, plus de 600 véhicules transportant des marchandises et des milliers de passagers sont bloqués à Komanda Centre pour les uns et à Mambasa Centre pour les autres. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est la conséquence de la suspension de trafic depuis lundi par les autorités à cause de la persistance de l'insécurité causée par des ADF sur ce tronçon. La société civile locale et la Fédération des entreprises du Congo déplorent déjà la rareté et la hausse des prix de certains produits sur le marché. Ces structures demandent au gouvernement de lever cette mesure qui accentue la souffrance de la population. Isaac Remoyopé.
De nombreux camions et voitures en provenance de Bounia et du Nord qui vous sont stationnés depuis lundi à Komanda Centre. Même décor à Mambasa Centre où sont bloqués des centaines de véhicules qui viennent de la province de Tchopo. Selon la société civile de ces deux entités, des milliers de passagers vivent dans des conditions difficiles. Certains produits de première nécessité, notamment de l'huile et du riz, deviennent déjà rares. À Mambasa Centre et d'autres agglomérations le long de la RN4, les acteurs de la société civile et de la FEC demandent aux autorités de mener des opérations de ratissage pour traquer les rebelles des ADF qui ont intensifié les attaques sur les tronçons communs à Mambasa. Les porte-parole de l'armée en Ituri ont dit que les opérations militaires sont en cours et elles ont d'ailleurs permis de capturer 3 ADF le week-end dernier dans la zone. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que l'objectif est de garantir la libre circulation sur cette route.
Nous sommes dans les opérations de ratissage dans cette zone. Hier, on a présenté 3 ADF étaient dans les opérations de fouilles et de ratissage dans cette partie de la République. Et du reste, nous sommes en train de travailler pour rendre la liberté des mouvements à nos populations. Aujourd'hui, nous avons convoyé des milliers de véhicules pour essayer de pallier à cette situation.
Signalons que cette situation accentue la misère de la population dans ces deux entités qui hébergent des milliers de déplacés qui ont fui les exactions des ADF. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis les postes frontaliers de Kassindi au nord Kivu et de Ruzizi au sud Kivu ont désormais les infrastructures modernes grâce à un projet du gouvernement financé entre autres par la Banque mondiale et l'Union européenne. C'est dans le cadre de l'inauguration de ces infrastructures que le ministre du Commerce extérieur séjourne depuis mardi dans la région. Jean-Lycée Bouss affirme que ce projet promeut en même temps la facilitation du commerce entre la RDC et ses voisins rwandais et ougandais particulièrement. Ces propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat de province.
Dans le cadre de la facilité du commerce, mais aussi de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, le président de la République et le gouvernement nous ont engagés à moderniser les infrastructures frontalières de la République démocratique du Congo. Et vous savez aussi, avec l'appui de nos partenaires, que Banque mondiale et autres, l'Union européenne, le gouvernement a construit donc des infrastructures au niveau des frontières entre le Bukavu et le Rwanda, donc au niveau de Ruzizi Premier, mais aussi au niveau des Kassindi. Ces infrastructures ont été donc terminées, les travaux de construction sont terminés et je viens pour inaugurer ces bâtiments.
Après le lancement par le gouverneur du Kasaï Central de la vente de maïs venant de Kanyama Kasese, le service national a ouvert des points à Kananga pour que la population s'en en procure. Dans la première vague, 650 tonnes arrivées dans 14 wagons sont placées dans différents sites, comme l'a constaté notre correspondant sur place, François Kadima.
Des dépôts de vente sont placés dans chaque commune, notamment Kananga, Ndesha, Lukonga, Katoka et Nganza par le service national. À différents endroits, un engouement est observé pour les personnes qui veulent se procurer ce maïs. Un sac de 50 kilos se vend à 41 000 francs congolais, constate-t-on. Au site placé en plein centre-ville, les dépôts sont pleins de sacs de maïs et les systèmes de remise de jetons est instauré pour permettre à tout le monde d'en acheter, explique l'équipe qui s'occupe de la vente et du contrôle.
En tout cas, aujourd'hui, avec le système de jetons, tout se passe bien. Les gens n'aiment pas l'ordre. C'est pourquoi les gens se bousculent. Tout le monde est pressé, tout le monde veut être servi en premier temps. Si même tout le monde entrait ici, ils ne terminent pas les masses. Il y a plus de 4000 sacs ici.
Les mamans qui en achètent pour soit consommer pour certaines et vendre pour d'autres, c'est une satisfaction surtout par rapport à la crise qu'il y avait. J'ai acheté le sac de maïs à 41 000 francs congolais. et c'est à un bon prix. Je suis contente. Dans le sac, il y a 17 mesurettes. Quand on fait les calculs, la mesurette revient à 2300 francs congolais.
2300.
Sur le marché, la mesurette était passée à 4000 francs congolais, voire plus, avec la rareté de cette denrée alimentaire. Déjà, une autre vague de maïs de Kanyamaka Sese est attendue, assure le service national qui veut inonder le marché. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Front de libération de l'enclave de Cabinda, le FLECFAC, reprend ses actions militaires à l'occasion des élections générales en Angola. Hier mercredi, alors que les Angolais se rendaient aux urnes, les forces armées cabindaises du FLECFAC ont revendiqué la mort de 11 soldats angolais sur le territoire de la province près de la frontière de la RDC. Les militants indépendantistes ont multiplié les opérations à l'approche d'un scrutin qu'ils appelaient à boycotter dans la province. Et puis, Moscou pourrait annoncer dès cette semaine un référendum illégitime en Ukraine occupé pour tenter de justifier une annexion des territoires ukrainiens à la Russie, a déclaré mercredi 24 août à la presse un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Nous avons des informations selon lesquelles la Russie continue de préparer des simulacres de référendum à Kherson ainsi qu'à Kharkiv sur un rattachement aux régions séparatistes de Donetsk et Lugansk, a-t-il dit.
L'invité.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a déclaré la résurgence de la maladie à virus Ebola à Beni le dimanche 21 août. La victime est décédée et les échantillons prélevés sur son corps ont attesté qu'il s'agit de la souche d'Ebola Zaïre qui a sévi dans la région entre les années 2018 et 2019. Pour limiter cette 15e épidémie d'Ebola à cet unique cas, le médecin-chef de la zone de santé de Beni appelle à un engagement communautaire. Docteur Michel Tosalissana est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar. Suivez.
Docteur Michel Tosalissana, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le ministre de la Santé a confirmé la résurgence de la maladie à virus Ebola à Beni, dans la zone de santé du même nom. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces nouveaux cas d'Ebola dans la région?
Il s'agissait d'une malade âgée de 46 ans qui était admise à l'hôpital général de référence de Beni en date du 23 juillet 2022.
Le malade décède le 15 août. Est-ce qu'elle a présenté tous les signes de la maladie?
Les signes d'Ebola sont communs aux signes d'autres maladies. Il n'y a que le laboratoire qui peut trancher par rapport au vrai diagnostic. Donc, elle a présenté des signes qui pouvaient se retrouver aussi dans d'autres maladies. Et tout ce qui peut trancher, ce n'est que le laboratoire.
Et le communiqué du ministre atteste qu'il s'agit de la souche Ebola Zaïre liée à la 10e épidémie d'Ebola qui a sévi entre 2018 et 2019 dans la région. Comment expliquer cela?
Je pense que nous devons reconnaître le mérite du laboratoire INRB qui est arrivé jusqu'à identifier la souche. Effectivement, c'est une souche qui est liée à la 10e épidémie. Et avant que le labo ne précise cela, les équipes de terrain avec les investigations approfondies ont retracé le cas et trouver que la défunte était issue d'une famille dans une aire de santé où il n'y a pas eu acceptance de la réponse à la 10e épidémie.
Où il y avait résistance.
Résistance. C'est comme cela que cette famille-là, elle s'est retranchée dans un coin inaccessible par les équipes de la riposte. Et nous avons même pu identifier dans cette famille qu'il y avait des décès confirmés Ebola et même il y a des guéris.
Docteur, les germes du virus d'Ebola peuvent résister durant combien de temps dans l'organisme humain?
L'organisme humain, c'est parmi les réservoirs de ces virus-là. C'est une maladie dont les recherches vraiment sont encore très actives. Tantôt, on parlait de 500 jours quelque part, et 1000 jours, ça veut dire que les recherches continuent. Elle peut être aussi assimilée à une infection sexuellement transmissible, au même titre que les VIH. Nous avons des preuves par rapport à des épidémies passées.
Et à présent, où en êtes-vous avec les activités des ripostes?
Aussitôt, le cas est confirmé par les laboratoires INRB. Les équipes se sont mises sur le terrain pour commencer les premières actions avec l'appui de la division provinciale de la santé, donc tous les ministères jusqu'au ministère national et des partenaires traditionnels et occasionnels du ministère de la santé.
Concrètement, vous avez identifié sur le terrain déjà combien de cas contacts?
Stade actuel, 179 contacts que nous sommes en train de suivre dans les différentes aires de santé. Donc le vaccin est là, il va être administré entrer au contact après un entretien avec eux. À part les contacts, on devrait aussi vacciner les prestataires de première ligne. Ce ne sont pas seulement les infirmiers, c'est toute personne qui peut être en contact avec d'autres, des vendeurs, des motards, tous ces gens-là peuvent aussi recevoir le vaccin.
Et est-ce qu'il y a une crainte à se faire par rapport à la prise en charge des cas d'Ebola, en termes d'intrant par exemple?
Ça, ce n'est plus un problème. Vous savez encore une fois que notre pays, avec le concours du professeur Mouyembe et son équipe, en tout cas nous avons les molécules spécifiques. Vous avez entendu parler des Ebanga et d'autres. Ça, ce n'est pas un problème par rapport à notre pays. C'est la différence avec les épidémies antérieures où il n'y avait ni vaccin ni médicaments spécifiques. Mais cette fois-là, il y a déjà le vaccin, il y a aussi les molécules spécifiques.
Alors, pour terminer, quel message vous adressez aux membres de la communauté de cette région par rapport à cette nouvelle épidémie?
Le message, c'est de dire à la population d'abord de ne pas paniquer parce que la maladie est déjà identifiée. Il y a déjà un vaccin, il y a aussi des médicaments spécifiques. Tout ce qu'on peut demander à la population, c'est d'adhérer aux actions des équipes de terrain. Surtout que ces équipes-là sont des équipes vraiment de la zone de santé. Ce sont les prestataires qu'ils ont l'habitude de voir. Avec l'expérience du passé, l'engagement communautaire est la clé de réussite de toutes les postes. Quand on se lave les mains, on évite les maladies des mains sales. Et au même moment, on évite COVID-19, on évite Ebola. Ça, ça doit rester partout, à commencer par nos domiciles, dans les écoles, dans les églises.
Docteur Michel Tosalusana, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.